بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد On continue donc dans notre lecture du commentaire du noble Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad حفظه الله تعالى des 40 hadiths d'An-Nawawi. Nous avions lu le commentaire qu'il avait apporté aux trois premiers hadiths, le hadith de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, concernant l'intention, le hadith de Omar également, concernant les trois questions, ou plutôt les différentes questions qui ont été posées par l'ange d'Ibril qui s'était présenté à lui sous forme humaine, et dont les réponses contiennent l'enseignement des bases de la religion. Le troisième hadith rapporté par Ibn Omar, donc le fils de Omar, radiyallahu anhuma, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père. Et nous arrivons donc au quatrième hadith, qui cette fois-ci a été rapporté par le noble compagnon Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أما بعد كتخيم حديث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد
وشقي
أم سعيد
هنا وشقي أم سعيد الله أعلم. Ce qui est connu, c'est « wa shaqiyun am sa'id ». Allahu a'lam. Il faudrait vérifier.
« Wa shaqiyun am sa'id. Fa wallahi alladhi la ilaha ghayruh, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira' fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli al-nari fa yadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-nari hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira' فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجي le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم le véridique, le digne de foi a dit la création de l'être humain s'opère dans le ventre de sa mère sous la forme d'une goutte durant 40 jours il prend alors la forme d'une adhérence pendant une période identique et devient ensuite, toujours pendant la même durée, un morceau de chair. Un ange lui est alors envoyé et lui insuffle l'âme. Et on lui ordonne d'inscrire quatre choses. Sa subsistance, la durée de son existence, ses œuvres, et s'il sera parmi les malheureux ou bienheureux. Par Allah, en dehors duquel il n'y a pas de divinité digne d'adoration, l'homme peut accomplir les actes des habitants du paradis, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus entre lui et elle, la mort, qu'une coudée. C'est alors que sa prédestination le rattrape, et qu'il accomplit un acte des habitants de l'enfer et y entre. Et à l'inverse, l'homme peut accomplir les actes des habitants de l'enfer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus entre lui et elle la mort qu'une coudée. C'est alors que sa prédestination le rattrape et qu'il accomplit un acte des habitants du paradis et y entre. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim.
Na'am, ici, on remarque que le traducteur, jazahullahu khayra, a mis entre crochets la mort. Quand il a dit « jusqu'à ce qu'il n'y ait plus entre lui et elle, la mort, qu'une coudée ». C'est alors que sa prédestination, ou ce qui a été écrit, le rattrape et qu'il accomplit un acte des habitants de l'enfer et y entre. Et on retrouve cela également dans la suite lorsqu'il dit, donc, dans sa traduction, et à l'inverse, « l'homme peut accomplir les actes des habitants de l'enfer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus entre lui et elle, et à nouveau donc la mort, qu'une coudée ». Cet apport de la part du traducteur est très judicieux, jazahullahu khayra, étant donné que ça dissipe une mauvaise compréhension que certaines personnes pourraient avoir. Et le noble shir, Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, il a attiré l'attention vers la nullité de cette compréhension-là dans son commentaire de ce hadith, justement. Cette compréhension qui est donc erronée, elle consiste à penser que ce qui est voulu dans ce hadith, c'est le fait que l'individu, donc, dans le premier cas, accomplisse les actes des habitants du paradis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus entre lui et le paradis qu'une coudée. Dans le sens où, selon leur compréhension erronée, cette personne-là aurait atteint un tel degré du fait de ses œuvres qu'il ne serait plus qu'à une coudée du paradis et qu'au dernier moment, il se fasse rattraper par sa prédestination et qu'il accomplisse un acte des habitants de l'enfer et y entre. Alors qu'en vérité, ce n'est pas cela qui est voulu. Et on va aborder cela plus en détail, bi'idhnillah, à travers la lecture du 10e point composant le commentaire du Shir Abd al-Muhsin, hafizahullah. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala, il n'est pas injuste envers ses serviteurs. Et ce qui est visé ici, et nous allons, comme je l'ai annoncé, le voir plus en détail, bi'idhnillah, c'est le fait que la personne, elle est œuvrée durant sa vie en faisant de bonnes actions, c'est-à-dire les actes des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus entre cette personne et la mort qu'une coudée. Et c'est à ce moment-là qu'elle se va rattraper à sa prédestination. Mais en vérité, cela c'était uniquement dans ce qui était apparent. Dans ce qui était apparent, de ce qui apparaissait aux gens. Les gens avaient l'impression que cette personne-là faisait de bonnes actions. Alors qu'en vérité, la bonne action, c'est celle dans laquelle sont réunies les deux conditions de l'acceptation des œuvres, à savoir la sincérité vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala et la conformité à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc en vérité, ce cas-là, le cas de l'homme qui accomplit les actes des habitants du paradis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus entre lui et elle, c'est-à-dire la mort qu'une coudée, na'am, c'est le cas de la personne qui n'accomplissait pas réellement de bonnes actions. Elle n'accomplissait des bonnes actions que dans ce qui apparaissait aux gens. Mais en vérité, il y avait en elle une souillure, quelque chose de malsain. Et c'est alors que sa prédestination le rattrape et qu'il accomplit un acte des habitants de l'enfer et y entre. Et comme le disait Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, dans son commentaire de ce hadith dans Jami' al-Ulum wal-Hikam, et on va avoir l'occasion d'y revenir également, incha'Allah, la mauvaise fin ne peut survenir qu'à cause d'une pourriture qui réside dans le fort intérieur de la personne, d'une souillure. La mauvaise fin ne peut survenir qu'à cause d'une souillure qui réside dans le fort intérieur de la personne, qu'Allah nous en préserve et qu'Allah purifie nos cœurs et nos forts intérieurs. Ça, donc, ça concernait ce point et la raison pour laquelle le traducteur, jazahullahu khayra, a précisé, entrecroché, la mort. Il a mis entrecroché car ça ne fait pas partie de ce qui est apparent, des termes apparents de ce hadith. Mais c'est ce qui doit en être compris. Walhamdulillah.
Premier enseignement, concernant sa parole, le véridique, le digne de foi, son sens est qu'il est véridique dans ses propos et digne de foi en ce qu'il transmet de la révélation. Ibn Mas'ud a dit cela, car le hadith traite d'éléments relatifs à l'invisible qui ne peuvent être connus que par la révélation.
Connus sans eux. Qui ne peuvent être connus, on enlève le « e » car ça renvoie à « élément » et « élément » c'est masculin. Donc « connu », ce n'est pas au féminin, c'est au masculin également. Donc on met « connu » « us » et non pas « u-e-s ». Ibn Mas'ud, le rapporteur de ce hadith, a dit « Haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé et il est le véridique, le digne de foi. Le Cheikh Abdel Mohsin d'expliquer qu'Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit cela en introduction de la transmission de ce hadith, étant donné que ce hadith traite d'éléments relatifs à l'invisible, qui ne peuvent être connus que par la révélation. Et à partir de là, il a jugé opportun d'insister sur le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est véridique dans ses propos et qu'il est digne de foi, donc dans ce qu'il transmet de la révélation.
Concernant sa parole, la création de l'être humain s'opère dans le ventre de sa mère, on a dit que cela désignait la rencontre du liquide de l'homme avec le liquide de la femme dans l'utérus. Et c'est par ces deux choses que l'homme est créé, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la traduction approximative de sa parole, il a été créé d'un liquide éjaculé, et il dit, ne vous avons-nous pas créé d'un liquide insignifiant que nous avons placé dans une matrice sûre. Le terme création désigne en fait les éléments par lesquels s'opère la création de l'homme. Comme il est mentionné dans Sahih Muslim, tout liquide ne donne pas d'enfant.
Na'am. Le hadith auquel le shir, qu'Allah le préserve, a fait référence ici, c'est un hadith qui est rapporté par et qui est recueilli par l'imam muslim dans son recueil authentique, d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été questionné à propos du azl. Le azl, c'est une pratique qui consiste à ce que l'homme se retire de son épouse avant d'avoir éjaculé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné à propos du azl. Il a répondu, tout liquide ne donne pas forcément d'enfant. Et lorsque Allah veut qu'une chose se crée, rien ne peut l'en empêcher. Dans ce hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on retrouve que c'est le liquide, donc le liquide ici c'est le liquide spermatique, qui constitue la cause de la création de l'homme. Et c'est dans cette optique que le Cheikh Abdel Mohsin l'a mentionné ici. Et on retrouve également dans ce hadith d'Abu Sa'id, radiallahu anhu, que c'est avant tout par volonté d'Allah que cela s'opère. Et même le fait de prendre la précaution de se retirer avant l'éjaculation n'empêchera pas cela. Si Allah tabaraka wa ta'ala l'a voulu. Donc on retrouve dans un premier temps ici le fait que c'est le liquide spermatique et sa rencontre avec le liquide de la femme dans l'utérus qui constitue les éléments de la création de l'homme. Et tout cela par volonté d'Allah, tabaraka wa ta'ala.
Dans ce hadith, sont mentionnées les étapes de la création de l'homme qui sont, premièrement, la goutte, nutfa, qui désigne une petite quantité de liquide. Deuxièmement, l'adhérence, alaqa, qui est un sang épais et coagulé. Troisièmement, mudra, qui est un morceau de chair d'une taille semblable à ce que l'on peut mâcher. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ces trois étapes dans sa parole, dont la traduction approximative est « Ô vous les hommes, si vous doutez au sujet de la résurrection, sachez que c'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte, puis d'une adhérence, puis d'un morceau de chair, qu'il soit normalement formé ou non. » C'est-à-dire qu'il est déjà une forme ou non. Et c'est dans Surat al-Mu'minun qu'Allah subhanahu wa ta'ala a le plus exposé les étapes de la création de l'homme. « Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en avons fait une goutte dans un utérus protégé, puis nous avons fait de la goutte une adhérence, de l'adhérence nous avons créé un morceau de chair, et de ce morceau de chair nous avons créé des os, et avons revêti les os de chair, ensuite nous l'avons transformé en une toute autre création. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. »
Na'am. Donc ici le shir, hafidhahullahu ta'ala, il a abordé la mention des différentes étapes de la création de l'homme. Il les a donc récapitulées à partir de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith rapporté par Ibn Mas'ud, radiyallahu an, et également, il a établi la concordance qu'il y a entre ce hadith et certains versets coraniques. Notamment, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate al-Hajj, « Ya ayyuhal nas, in kuntum fi raybi min al-ba'th, فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ. Et également le verset de sourate Al-Mu'minun à propos duquel le commentateur hafidhahullahu ta'ala a dit que c'est dans ce verset-là qu'Allah a le plus exposé les étapes de la création de l'homme. En effet, il a dit « Inna wa laqad khalaqana al-insan min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqana an-nutfata 'alaqa fa khalaqana al-'alaqata mudghah fa khalaqana al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en avons fait une goutte dans un utérus protégé, puis nous avons fait de la goutte une adhérence, de l'adhérence nous avons créé un morceau de chair, et de ce morceau de chair nous avons créé des os, et avons revêtu les os de chair. Ensuite nous l'avons transformé en une toute autre création, béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Le fait que Allah tabaraka wa ta'ala ait dit ensuite nous l'avons transformé en une toute autre création, ça vise l'insufflation de l'âme. Étant donné qu'avant l'insufflation de l'âme, l'embryon fait partie des choses inertes. Avant l'insufflation de l'âme. Après l'insufflation de l'âme, il fait partie des êtres vivants. Et c'est ainsi qu'il est considéré comme une toute autre création. C'est donc pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, ensuite nous l'avons transformé en une toute autre création. Donc on retrouve ici les différentes étapes. Premièrement, l'étape de an-nutfa, une goutte. Puis, deuxièmement, al-alaqa, na'am, à savoir l'adhérence. Puis, al-mudra, à savoir ce qui est similaire à un morceau de chair mâché. Et ensuite, donc, ce morceau de chair, il est recouvert d'os, et ses os sont revêtus de chair, et ensuite, tout cela est transformé en une toute autre création, dans le sens où l'âme est insufflée.
Le hadith mentionne qu'après ces trois étapes, d'une durée de 120 jours, l'âme est insufflée et il devient un être humain vivant. Alors qu'avant cela, il est mort.
Comme ça, au présent, il est peut-être plus judicieux de le mettre au passé. Alors qu'avant cela, il était mort. Donc de transformer EEST en ET, donc à l'impératif. Si je ne me trompe pas, on appelle ça l'imparfait, excusez-moi.
Et il devient un être humain vivant alors qu'avant cela, il était mort. Il est mentionné dans le Coran que l'homme a deux vies et deux morts. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit des mécréants, dans la traduction approximative de sa parole, ils dirent « Ô Seigneur, tu nous as fait mourir deux fois et vivre deux fois. » La première mort a lieu avant l'insufflation de l'âme. La première vie de l'insufflation de l'âme jusqu'au terme de l'existence. Et la deuxième mort a lieu après la mort du corps jusqu'à la résurrection. Ceci n'est pas contradictoire avec la vie de la tombe confirmée dans le Coran et la Sunna. Quant à la deuxième vie, elle commence après la résurrection. Et c'est une vie éternelle, continue, sans fin. Et ce sont les quatre situations que vit l'homme. Comme Allah subhanahu wa ta'ala les a exposées dans sa parole, dont la traduction est « C'est lui qui vous a donné la vie, puis il vous fera mourir et vous fera revivre. Vraiment, l'homme est très ingrat. » Et sa parole « Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie et quand vous en étiez privé ?» Puis il vous fera mourir et vous fera revivre, et enfin, c'est vers lui que vous retournerez. S'il est mis au monde après l'insufflation...
C'est vers lui que vous retournerez, pour rester plus dans la traduction littérale, qui est envisageable ici, on dira, et enfin, c'est vers lui que vous serez retourné. que vous serez renvoyé, étant donné que c'est la voix passive qui est utilisée ici.
S'il est mis au monde après l'insufflation de l'âme et qu'il décède, les règles de la naissance s'appliquent, comme le fait de le laver, de prier sur lui, la fin de la période de viduité de la mère, en cas de divorce prononcé avant ou pendant la grossesse, sa période de lochi. Mais s'il y a une fausse couche avant cela, ces règles ne s'appliquent pas.
Naam, ici, donc vous trouvez entre crochets, en cas de divorce prononcé avant ou pendant la grossesse. C'est-à-dire pendant la grossesse ou avant que la grossesse ne soit connue. Naam. Ensuite, donc, virgule, sa période de lochi. Entre le crochet et sa période de lochi, il y a un petit passage qui a sauté. Naam. Ce passage, nous y trouvons que le Shir Abd al-Muhsin y dit, est le fait que la servante soit considérée mère esclave. Et on avait déjà abordé cette notion, la notion de Umm Walad. Umm Walad, ça désigne une esclave qui a enfanté pour son maître. Et on l'appelle Umm Walad. Donc à partir du moment où l'âme est insufflée, l'embryon qui est dans son ventre, elle est considérée comme Umm Walad, comme mère esclave. Et ce passage-là n'est pas mentionné dans la traduction. Il a été omis par le traducteur. Afallahu anhu. Sa période de lochi, mais s'il y a une fausse couche avant cela, ces règles ne s'appliquent pas. Na'am. Ici donc, on retrouve le récapitulatif des étapes de la création, comme nous l'avons mentionné, qui correspondent à trois périodes de 40 jours. Ce qui nous fait 40 x 3, 120 jours. Premièrement une goutte, puis une adhérence, suivie d'un morceau de chair mâchée. Également, on retrouve le fait que l'être humain, il a deux vies et il a deux morts. Il est mentionné dans le Coran que l'homme a deux vies et deux morts. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit des mécréants, c'est-à-dire il fait mention de la parole qu'ils vont dire alors qu'ils seront en enfer. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Ils dirent, ô Seigneur, tu nous as fait mourir deux fois et vivre deux fois, et nous avons à présent reconnu nos péchés. Y a-t-il donc un moyen d'en sortir, c'est-à-dire de sortir de l'enfer? Donc on retrouve dans cette parole-là, dont Allah tabaraka wa ta'ala a fait mention dans son noble livre, le fait que l'homme a deux vies et deux morts. Et le Shir Abd al-Muhsin d'expliquer cela en disant, la première mort a lieu avant l'insufflation de l'âme. Avant l'insufflation de l'âme, l'homme est considéré comme étant mort. Deuxièmement, la première vie qui a lieu de l'insufflation de l'âme jusqu'au terme de l'existence. Cette première vie qui est suivie de la deuxième mort, qui a lieu après la mort du corps, jusqu'à la résurrection. Et le Shir d'aborder, ou ici une précision importante, d'apporter une précision importante en disant, ceci n'est pas contradictoire avec la vie de la tombe confirmée dans le Coran et la Sunna. C'est-à-dire que l'affirmation de la deuxième mort n'est pas en contradiction avec l'affirmation de la vie de la tombe. Pourquoi? Étant donné que l'affirmation de la deuxième mort, elle vise ce bas monde. Alors que l'affirmation de la vie dans la tombe, elle vise le monde de l'au-delà. Et ce sont deux mondes ou deux demeures différentes. Et le fait d'affirmer la deuxième mort n'est pas en contradiction avec le fait d'affirmer la vie de la tombe, étant donné que chacune de ces deux choses-là ont lieu dans des demeures qui sont distinctes. l'une de l'autre. Donc nous avons abordé premièrement. Qu'est-ce que nous avons abordé premièrement? Non, donc l'homme il a deux vies, il a deux morts. On commence par quoi? Par la première mort. Qui est suivie de? De la première vie. Qui est suivie de? La deuxième mort. Et ensuite, qui est suivie de la deuxième vie? Naam. Et le shir de dire, quant à la deuxième vie, elle commence après la résurrection. Et c'est une vie éternelle, continue, sans fin. Et ce sont les quatre situations que vit l'homme, comme Allah tabaraka wa ta'ala les a exposées. Puis il a mentionné donc deux versets coraniques allant dans ce sens. Puis il a abordé la question de l'insufflation de l'âme. Et ce que va impliquer, ou ce que va engendrer et entraîner l'insufflation de l'âme. En disant, s'il est mis au monde, c'est-à-dire l'homme, après l'insufflation de l'âme et qu'il décède, les règles de la naissance s'appliquent. Comme le fait de le laver, de prier sur lui, la fin de la période de viduité de la mère. Et également le fait que la servante qui est en état de grossesse soit considérée comme mère esclave, Naam, et le fait que prenne fin la période de l'Oshi. Puis il a dit, mais s'il y a une fausse couche avant cela, c'est-à-dire avant l'insufflation de l'âme, alors ces règles ne s'appliquent pas. C'est-à-dire les règles liées à la naissance. Donc, cela est important. Le fait de savoir à partir de quand l'âme est insufflée.
Après que l'ange ait écrit sa subsistance, la durée de son existence, s'il s'agissait d'un garçon ou d'une fille, s'il serait parmi les malheureux ou les bienheureux, la connaissance du sexe de l'enfant n'est plus parmi les choses de l'invisible connues d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala, car l'ange l'a su, et il est donc possible de savoir si le fœtus est un garçon ou une fille.
Naam. Ici, le shir Abdel Mohsin, hafidhahullah ta'ala, a récapitulé ce que l'ange écrit. Hormis le fait qu'il ait fait mention de la détermination du sexe à la place de l'inscription des œuvres. On récapitule ce que nous trouvons dans le hadith d'Ibn Mas'ud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Un ange lui est alors envoyé et lui insuffle l'âme. Et on lui ordonne d'inscrire quatre choses. Sa subsistance, premièrement. Deuxièmement, la durée de son existence. Troisièmement, ses œuvres. Et quatrièmement, et s'il sera parmi les malheureux ou bienheureux. » Ici, le shir Abdel Mohsin, il a récapitulé cela et il a fait mention de la subsistance, de la durée de l'existence et du fait qu'il sera malheureux ou bienheureux. Et il n'a pas fait mention de l'inscription des œuvres. Et à la place de cela, il a fait mention de quoi? De la détermination du sexe. Et d'ailleurs, il existe une divergence entre les ulama au sujet de la détermination du sexe. À savoir, à quel moment la détermination du sexe a lieu. Et cette divergence-là, elle est due au fait que les hadiths qui s'y rapportent sont en apparence en divergence. Bien dit en apparence. Donc certains ulama sont d'avis que la détermination du sexe a lieu après la troisième période de 40 jours. Et ils se sont basés dans cela sur le hadith d'Ibn Mas'ud que nous sommes en train d'étudier. Étant donné que ce qui en apparaît, c'est que la détermination elle a lieu justement à partir de là. Ou du moins ce qui apparaît de certaines versions ou variantes de ce hadith-là. D'autres sont d'avis que c'est après la première période de 40 jours qu'a lieu la détermination du sexe. Et il se base dans cela sur un hadith rapporté par l'imam Muslim dans son recueil authentique d'après Hudhayfa ibn Asid radiallahu anhu. D'autres ulama, et c'est donc l'un troisième avis, ont opté pour le fait que l'écriture de cela, c'est-à-dire la détermination du sexe, a lieu à deux reprises. Une fois dans les cieux et une fois dans le ventre de la mère. Et d'autres ulama, et c'est le cas d'Ibn Rajab, dans son livre Jami' al-Ulum wa al-Hikam, sont d'avis qu'en vérité, cette écriture-là a lieu à une seule reprise, mais que cela diffère selon les embryons. Et que concernant certains embryons, leur sexe est déterminé après la première période de 40 jours, et que concernant certains autres embryons, le sexe est déterminé après la troisième période de 40 jours. Wa alaykoum as-salam wa rahmatoullah. Ceci nous explique que depuis bien longtemps, les personnes expérimentées arrivent à déterminer très tôt le sexe de l'enfant, parfois même avant la fin de la troisième période de 40 jours. En effet, nous retrouvons, et c'est le Cheikh Saleh Al-Shir qui en fait mention dans son commentaire des 40 hadiths, nous retrouvons dans le livre Ahkam al-Qur'an d'Ibn al-Arabi, qui comptait parmi les grands ulama qui sont morts au 6e siècle de l'Hégire, sachant qu'on est dans quel siècle de l'Hégire ? Au 15e siècle. Ibn al-Arabi, rahimahullah, qui comptait parmi les grands ulama malikites, est décédé au 6e siècle. Et il a fait mention dans son livre Ahkam al-Qur'an qu'à son époque, certaines personnes, du fait de leur expérience, arrivaient à annoncer le sexe de l'enfant avant même qu'il ait atteint la fin de la troisième période de 40 jours dans le ventre de sa mère. Donc les contemporains n'ont rien inventé. Non.
Le destin d'Allah précède tout ce qui existe. Aussi, ce qui déterminera le bonheur et le malheur éternel de l'homme sera son état à sa mort.
Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder une bonne fin.
Les gens sont de quatre types concernant le début et la fin de leur vie. Premièrement, celui dont le début et la fin sont bons. Deuxièmement, celui dont le début et la fin sont mauvais. Et troisièmement, celui dont le début est bon et dont la fin est mauvaise, comme celui qui a grandi dans l'obéissance à Allah, mais qui renie l'islam avant la mort et meurt apostat. Et quatrièmement, enfin, celui dont le début est mauvais et dont la fin est bonne, comme les magiciens qui étaient avec Pharaon, et qui ont cru au Seigneur de Haroun et Moussa, ou le jeune juif qui était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam rendit visite lorsqu'il était malade, en lui présentant l'islam que ce jeune accepta. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: louange à Allah qui l'a sauvé de l'enfer, comme cela est rapporté dans le Sahih al-Bukhari, et le hadith évoque les deux dernières situations.
Na'am. Et Wazid.
Le hadith mentionne que l'homme pratique des œuvres qui contiennent son bonheur ou son malheur selon sa volonté et sa décision, mais que cela ne le fait pas sortir de la volonté et décision d'Allah. Il est libre dans la mesure où c'est lui qui œuvre selon son choix. Mais il est dirigé en ce sens qu'il ne peut faire une chose qu'Allah n'a pas voulu. Le hadith indique les deux situations, disant qu'avant la mort, sa prédestination le rattrape et qu'il accomplit un acte des habitants du paradis ou commet un acte des habitants de l'enfer.
Na'am, le hadith indique les deux situations. Il serait plus opportun ici de remplacer le terme situation par notion. Le hadith indique les deux situations. Il est plus opportun de remplacer le terme situation par notion. Car en vérité, le hadith, il n'indique pas deux situations. Mais il indique deux notions qui doivent être toutes deux prises en considération en même temps. Dans ce passage, le Cheikh Abd al-Muhsin, hafidhahullah, il a exposé la croyance des adeptes de la Sunna et du groupe Unis sur la vérité concernant la relation qu'il y a entre les œuvres du serviteur, sa volonté et la volonté d'Allah, tabaraka wa ta'ala. À savoir que le serviteur œuvre par sa volonté et qu'il a une réelle volonté d'agir, mais que cette volonté-là dépend de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il y a de nombreux textes qui appuient cela, notamment le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne pourrez vouloir que si Allah le veut, lui, le Seigneur des mondes. Également, le Shir a répondu ici à la question qui consiste à savoir, est-ce que le serviteur est libre ou est-ce qu'il est dirigé? Est-ce qu'il est libre ou est-ce qu'il est dirigé? La réponse, vous la retrouvez ici, je vous indique donc, je vous invite donc à la souligner ou à la mettre en évidence. Le Shir a dit, il est libre dans la mesure où c'est lui qui œuvre selon son choix, mais il est dirigé en ce sens qu'il ne peut faire une chose qu'Allah n'a pas voulu. Donc tu ne peux pas répondre à cette question en disant qu'il est libre de manière absolue ou en disant qu'il est dirigé de manière absolue. Mais tu es obligé ici de détailler et de dire qu'il est libre dans la mesure où c'est lui qui œuvre selon son choix, mais qu'il est dirigé en ce sens qu'il ne peut faire une chose qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a pas voulu.
L'homme doit avoir peur mais aussi espérer, car certaines personnes font le bien dans leur vie mais œuvrent mal à la fin. Il ne faut pas désespérer car l'homme peut commettre des péchés tout au long de sa vie, puis Allah lui accorde la droiture et il choisit la droiture à la fin de sa vie. An-Nawawi en dit en commentaire de ce hadith, si on objecte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, vraiment nous ne laisserons pas perdre la récompense de ceux qui font le bien », en apparence, le verset indique que l'œuvre pieuse du généreux, que l'œuvre pieuse de l'individu sincère est acceptée, et si elle est acceptée par la promesse du généreux, alors cet individu est préservé d'une mauvaise fin, comme l'indique la fin du verset. Nous répondons à cette objection de deux points de vue. Le premier est que cela est lié aux conditions d'acceptation des œuvres et de la bonne fin de la vie de l'homme. Et on peut penser que celui qui croit et œuvre sincèrement ne conclut pas toujours son existence en bien.
Ici, le traducteur a dit « Et on peut penser que celui qui croit et œuvre sincèrement ne conclut pas toujours son existence en bien. » Alors qu'en vérité, ce qui a été avancé ici par An-Nawawi, dans ce passage dont fait mention le Shir Abdel Mohsin, Hafidhahullah, est différent. Et même opposé à ce que nous a proposé ici le traducteur, Afallahu An. En effet, ce qui correspond au propos d'An-Nawawi, qui ont été mentionnés ici par le Shir Abdel Mohsin, c'est le premier, et que cela est lié aux conditions d'acceptation des œuvres et de la bonne fin de la vie de l'homme. Et on peut penser que celui qui croit et œuvre sincèrement conclut forcément son existence en bien. Conclut forcément son existence en bien. Et on va revenir sur ce point, bi'idhnillah, après avoir terminé la lecture de ce passage. Donc je vous invite à mettre en évidence le fait que le traducteur a dit ne conclut pas toujours son existence en bien et d'écrire à côté conclut forcément son existence en bien. Et on va expliquer cela bi'idhnillah.
Le deuxième est que ceux dont la fin de vie est malheureuse, comme les gens qui ont mal agi ou qui ont mélangé à leurs bonnes œuvres d'autres mêlées d'ostentation et de recherche de réputation, cela est indiqué par cet autre hadith, l'homme peut accomplir les actes des habitants du paradis en ce qui apparaît aux gens, c'est-à-dire en ce qui leur apparaît comme droiture dans son apparence, alors que son fort intérieur est corrompu et hideux, et Allah est plus savant.
Na'am. Donc ici, le Shir Abdel Mohsin, hafidhahullah ta'ala, a fait mention de propos avancés par An-Nawawi dans son commentaire de ce hadith. Et il y a abordé une objection qui pourrait être faite. concernant l'affirmation de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a affirmé, à savoir le fait qu'une personne puisse œuvrer toute sa vie par les actes des habitants du paradis, puis être rattrapé par la prédestination et œuvré par les œuvres des habitants de l'enfer, et ainsi entrer en enfer. Et cette objection, elle est basée sur la compréhension que certaines personnes peuvent avoir de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, vraiment nous ne laisserons pas perdre la récompense de ceux qui font le bien. Donc le Nawawi a dit, en apparence le verset indique que l'œuvre pieuse de l'individu sincère est acceptée. Et si elle est acceptée par la promesse du généreux, alors cet individu est préservé d'une mauvaise fin, comme l'indique la fin du verset. En effet, dans la fin du verset, nous trouvons « Nous ne laisserons pas perdre la récompense de ceux qui font le bien. » Nous répondons à cette objection de deux points de vue. Le premier point de vue, c'est que cela est lié aux conditions d'acceptation des œuvres et de la bonne fin de la vie de l'homme, sachant que les conditions de l'acceptation des œuvres, c'est comme nous l'avons mentionné précédemment, et il n'y a pas de mal à le rappeler, il y a la sincérité vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala et la conformité à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À partir de là, nous pouvons affirmer que si la personne réellement elle est sincère tout au long de sa vie et que ses bonnes actions ne sont pas uniquement des bonnes œuvres apparentes, mais que ce sont réellement des bonnes actions dans le sens où elles sont exclusivement vouées à Allah tabaraka wa ta'ala, et que l'individu recherche par ces actions-là la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala dans l'au-delà, et que ces actions présentées par le serviteur sont en conformité avec la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors il sera visé par la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit « Innal ladhina amanu wa aminu s-salihat, inna la nudi'u ajra man ahsana amala » Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, vraiment, nous ne laisserons pas perdre la récompense de ceux qui font le bien. Ce qui signifie que la personne qui ferait de bonnes actions en apparence, mais dont les bonnes actions ne seraient en réalité pas de bonnes actions du fait qu'il y aurait une défaillance quelque part, notamment à cause d'une absence de sincérité vis-à-vis d'Allah, tabaraka wa ta'ala, cette personne-là ne serait pas concernée par ce verset-là. Et c'est ainsi qu'il serait envisageable la concernant qu'elle œuvre par les actes des habitants du paradis, à tel point qu'il n'y ait plus entre elle et la mort qu'une coudée, et qu'elle soit ensuite rattrapée par la prédestination, et qu'elle œuvre par les actes des habitants de l'enfer, et qu'elle y entre, qu'Allah nous en préserve. Le deuxième point de vue qui permet de répondre à cette objection-là, c'est que ceux dont la fin de vie est malheureuse, comme les gens qui ont mal agi, ou qui ont mélangé à leurs bonnes œuvres d'autres mêlées d'ostentation et de recherche de réputation. Cela est indiqué par cet autre hadith. L'homme peut accomplir les actes des habitants du paradis en ce qui apparaît aux gens. C'est-à-dire en ce qui leur apparaît comme droiture dans son apparence, alors que son fort intérieur est corrompu et hideux. Et le fait de connaître le contexte dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu ses propos, à savoir, l'homme peut accomplir les actes des habitants du paradis en ce qui apparaît aux gens, alors qu'en vérité il fait partie des habitants de l'enfer, nous permet de comprendre mieux ce qu'il a visé par cela sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith, nous le retrouvons dans le recueil authentique de l'imam Muslim, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Nous y trouvons que, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il fut un homme qui, lors d'une bataille, fut tellement courageux et tellement téméraire qu'à la fin de la bataille, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont dit En vérité, c'est lui qui a gagné la bataille. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ces propos, il a dit, il fait partie des gens de l'enfer. Un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a entendu cela, fut surpris. Et il a donc suivi cet homme. Et il a suivi cet homme jusqu'à ce qu'il le voit touché par une lance ou par une flèche. Et cet homme-là n'a pas supporté cela, n'a pas patienté et n'a pas enduré. Et c'est ainsi qu'il s'est appuyé sur ce projectile qu'il avait atteint, cette lance ou cette flèche-là, et qu'il s'est donc, entre guillemets, donné la mort. L'homme, il a donc vu la mauvaise fin que cet homme a connue. C'est-à-dire le compagnon il a, en question qu'il avait suivi, il a vu la mauvaise fin que cet homme-là avait connue. Il est revenu vers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant, j'atteste que tu es le messager d'Allah. Chose dont il attestait également auparavant. Mais c'était ici, en guise... Taqid. D'insistance. Excusez-moi. C'était en guise d'insistance. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a alors demandé la cause de cette insistance-là. Et le compagnon radiallahu anhu de lui raconter l'histoire. Et à ce moment-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme peut accomplir les actes des habitants du paradis en ce qui apparaît aux gens, alors qu'en vérité, il fait partie des habitants de l'enfer. Donc, à partir de ces deux points de vue-là, de ces deux réponses-là, on comprend la réponse à cette objection-là qui peut être faite à partir du verset mentionné « Inna alladhina amanu wa aminu s-salihat, inna la nudi'u ajra man ahsana amala » Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, vraiment, nous ne laisserons pas perdre la récompense de ceux qui font le bien. Suite à cela, le Cheikh Abd al-Muhsin a récapitulé les enseignements du hadith de manière résumée et concise, ce qui nous permet donc de nous remettre en mémoire les différents enseignements et profits que nous avons pu en tirer.
Premier enseignement, les étapes de la création de l'homme dans le ventre de sa mère. Deuxième, l'insufflation de l'âme survient après 120 jours, et ainsi l'embryon devient un être humain. Troisième, un ange est chargé des matrices. Quatrième, la foi en l'invisible. Cinquième, la foi en la prédestination qui précède tout ce qui existe. Sixième, le fait de prêter serment sans qu'on nous l'ait demandé afin d'appuyer des propos.
Na'am, c'est ce que l'on retrouve dans la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, na'am, comme nous le retrouvons ici, فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ. Par Allah, en dehors duquel il n'y a pas de divinité digne d'adoration. L'homme peut accomplir les actes des habitants du paradis. Jusqu'à la fin du hadith. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêté serment, bien que cela ne lui ait pas été demandé, et cela afin d'appuyer les propos qu'il allait par la suite prononcer.
Septième enseignement, la valeur des œuvres dépend de la nature des dernières œuvres accomplies dans la vie de l'homme.
Na'am, la valeur des œuvres, c'est-à-dire la valeur des œuvres du serviteur durant son existence, dépend de la nature des dernières œuvres accomplies dans la vie de l'homme. Ce qui nous pousse donc à chercher à parfaire nos œuvres afin que nos dernières œuvres dans notre vie soit des œuvres de bien. Et il faut savoir également que cela doit nous mener à garder à l'esprit l'importance des œuvres qui ont précédé. L'importance des œuvres qui ont précédé. Car forcément, ce qui va succéder à cela va dépendre de ce qui a précédé. Et tu te dois donc d'avoir à l'esprit ces choses-là, de viser à avoir une bonne fin, et pour avoir une bonne fin, tu te dois également de soigner tes œuvres qui vont précéder les œuvres sur lesquelles tu vas achever ton existence. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde une bonne fin.
Huitièmement, ressentir les deux sentiments de peur et d'espoir. Celui qui agit en bien doit craindre la mauvaise fin, et celui qui agit en mal ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Neuvième enseignement, les œuvres sont une cause d'entrée au paradis ou en enfer.
Naam, les œuvres sont une cause d'entrée au paradis ou en enfer. Et elles ne sont que des causes. Et c'est avant tout la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, son pardon et ses faveurs, qui introduisent le serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala au paradis et qui le sauve de l'enfer. D'ailleurs, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a rapporté d'après Abu Huraira que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: l'œuvre d'aucun d'entre vous ne le sauvera de l'enfer. Les compagnons, qu'Allah les agrée, lui ont alors dit: même pas toi, au messager d'Allah? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre: même pas moi, sauf si Allah me fait part d'une miséricorde de sa part et d'un pardon. Nous retrouvons donc dans ce hadith que les œuvres constituent les causes de l'entrée au paradis et du fait d'être sauvé de l'enfer, mais que c'est avant tout la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala et son pardon qui introduisent les serviteurs au paradis et le sauvent de l'enfer. Cela donc doit lier nos cœurs à Allah tabaraka wa ta'ala et également nous dissuader d'être imbus de nos propres personnes en pensant avoir forcément bien agi ou en pensant mériter quoi que ce soit. Car en vérité, le serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala, il est dans la peur, continue de voir ses œuvres ne pas être acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est également dans la peur continue de voir ses mauvaises actions ne pas lui être pardonnées. Il doit donc impérativement ne pas être imbu de sa personne et avoir le cœur attaché à Allah tabaraka wa ta'ala et avoir sans cesse à l'esprit que c'est par la miséricorde et le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala que le serviteur est introduit au paradis et qu'il est sauvé de l'enfer. Je vous incite d'ailleurs à consulter ce livre écrit par l'érudit Ibn Rajab al-Hanbali intitulé Al-Mahajja fi Sayri al-Dulja, qui est le commentaire justement du hadith de Abu Huraira que je viens de vous mentionner.
Et dixièmement, on ne peut connaître en ce monde celui qui a été prédestiné au malheur ou au bonheur éternel.
Naam. Et c'est ainsi donc que se termine l'énumération de ces enseignements à tirer du hadith qu'Allah récompense l'auteur du livre ainsi que son commentateur ainsi que le traducteur. Jazakumullahu khaira, et on va s'en tenir à cela pour aujourd'hui. Allahu a'lam. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.